Bienvenue à toutes et tous sur Startup Job Story, le podcast qui décrypte les métiers en startup. Proposé par la Fresh Tech in the Alps, le collectif des startups alpines, il invite à découvrir les métiers de demain à travers le regard de celles et ceux qui les exercent aujourd'hui. C'est Laura qui se charge d'interviewer notre invité. Allez, c'est parti!
Bonjour, je suis Laura Colomba et je travaille pour la Fresh Tech in the Alps. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Chloé David. Bonjour Chloé.
Bonjour.
Est-ce que tu pourrais nous donner le nom de ton métier?
Alors, je suis Product Manager et je tiens aussi le rôle, en tout cas chez Prismo, de Product Designer, UX/UI, et un peu responsable marketing, donc si on veut angliciser Product Marketing aussi, voilà.
Très bien, tu es donc polyvalente, un vrai couteau suisse chez Prismo.
C'est ça.
Première question, parce qu'avant toute chose, Chloé, et pour briser la glace, nous avons demandé à chaque intervenant de choisir un objet et de nous dire ce qu'il représente pour eux. Est-ce que tu peux nous parler de ton objet?
Alors j'ai un objet qui est pas forcément propre à mon métier, mais un peu à qui je suis. Moi c'est mon carnet avec mon stylo. J'ai tendance à penser très vite, beaucoup, et en plus mon métier le demande parce que justement je suis, comme tu disais très bien, un couteau suisse. J'ai un peu plein de projets en tête et j'ai besoin des fois de poser mon cerveau à plat. Y a les outils digitaux évidemment, mais des fois j'aime bien juste griffonner du papier que je vais jamais relire, mais ça me permet de libérer mes pensées.
Et en tant que grande créatrice, est-ce que tu dessines également dans ce carnet?
Grande créatrice, c'est un grand mot. Je griffonne souvent quand je suis au téléphone, mais dessiner, j'ai beaucoup dessiné quand j'étais plus jeune, mais ça fait longtemps que non, pas vraiment.
Tu pourras du coup nous dire si dans le métier de UX/UI designeuse, il y a besoin d'avoir des compétences justement en créativité et en dessin.
Je pense que c'est surtout un besoin d'avoir une sensibilité artistique au design, des formes, des couleurs. Il faut y être sensible, aimer les voir, enfin voilà. après, est-ce qu'il y a besoin de dessiner? Je pense que ça dépend parce que je suis pas non. Enfin, il y a plusieurs. Comment dire? Il y a plusieurs métiers dans le product design et notamment il y a une partie qui est le graphic design et qui va demander beaucoup plus de compétences justement en création pure et en dessin peut-être, des fois qui peut se rapprocher d'ailleurs de l'illustration quand il y en a besoin et autres. Moi, en tout cas, chez Prismo, comme on est plutôt un éditeur de logiciels, au final, c'est de l'UX/UI, donc c'est user interface et user experience. Donc, c'est surtout arriver à designer une interface digitale, un site web ou une application, un logiciel, pour qu'il puisse être le plus fonctionnel possible pour l'utilisateur, puis le plus agréable aussi à regarder. Mais il n'y a pas forcément besoin de compétences graphiques pures de dessin. Voilà.
Ok, très bien. C'est super intéressant. Et du coup, justement, par rapport au métier que tu exerces, donc là, le premier métier que tu as exercé quand tu es arrivée chez Prismo, c'était donc en tant que UX/UI designeuse. Et du coup, quel a été ton parcours professionnel pour ton parcours, pardon, académique et peut-être tes premières expériences professionnelles pour arriver du coup à ce métier-là?
Alors chez Prismo et de manière générale mon parcours professionnel il est un petit peu un petit peu tortueux. À la base je suis arrivée chez Prismo en tant que web développeuse et du coup à moitié UX/UI designer. Je suis arrivée en alternance du coup il y a maintenant 2 ans. J'étais dans une formation, une formation de la CCI formation de la Haute-Savoie, donc au Papeterie Image Factory à Cran-Gevrier, qui est une formation en partenariat avec l'école des Gobelins, donc l'école qui est plutôt reconnue d'ailleurs dans les métiers de l'image à Paris. Et en fait, ils ont externalisé, en tout cas, ils ont développé certaines branches sur Annecy, comme la formation animateur 3D qu'on connaît pour le festival d'animation, mais aussi toute la partie, la filière digitale, qui est un peu moins connue finalement, mais qui existe vraiment sur Annecy. Et c'est une formation dans laquelle, en fait, on était une promo de 20 étudiants par année, on va dire, où on était divisé en 2, où c'était des développeurs et des designers graphiques. Et l'idée, c'était vraiment de travailler, de travailler nos spécialités et en même temps de travailler ensemble sur le développement, du coup, complet de projets digitaux, dans l'innovation digitale en particulier. Et du coup, on avait notre tronc commun qui était la conception de projets digitaux. Donc, c'est apprendre à concevoir un projet, du coup, orienté sur les besoins de l'utilisateur. Et ensuite, comment ça se traduit justement sur une interface digitale s'il y a besoin d'en avoir une. Des fois, il n'y a pas forcément besoin. L'expérience utilisateur se passe pas forcément sur un écran. On a tendance à l'oublier. Mais par exemple, on a fait des projets avec, avec des drones, où du coup, bah, certains projets ou certains groupes avaient décidé de piloter le drone avec une tablette ou un mobile, et dans ce cas-là, il y a besoin de designer une interface. Mais des fois, l'interface, c'est juste nous, avec notre corps, qui faisons des gestes avec le drone, il le reconnaît, et du coup, bah, c'est quelle est l'expérience vraiment de l'utilisateur avec le produit. Donc voilà, c'est juste pour faire cette parenthèse-là. Mais sinon, donc on a pu, moi j'ai pu faire cette formation-là, c'était vraiment ultra enrichissant, où du coup je suis entrée en tant que, avec une spécialité de développement web. Et en fait, plus ça allait dans la formation, et je vais pas dire que j'aimais de moins en moins le développement, parce que je trouve toujours ça un petit peu magique. On arrive à développer des choses avec des lignes de code, ça a l'air un petit peu mystique, et au final, on arrive à faire des choses qui sont ultra impressionnantes et justement graphiques à l'écran. Mais je me voyais pas forcément continuer à faire ce métier-là dans la vie de tous les jours au final, plus parce que l'expérience qu'on en a à l'école dans l'innovation digitale, c'est un peu beau, on fait des beaux projets, etc. Dans la vie de tous les jours, le développeur web, bah ça reste trop chronophage pour moi, même si ça peut être ultra intéressant évidemment. J'avais besoin d'un petit peu plus d'être un petit peu plus dans l'amont du développement de projet et du coup dans la conception et du coup la mise en travail de la forme du projet. Et du coup c'est pour ça que j'avais envie. Donc en fait quand je suis arrivée dans cette formation qui est une formation complètement en alternance, j'ai commencé à des postes du coup de développeuse web en fait dans des agences. Où on faisait des sites web pour des clients diverses. J'ai fait deux entreprises différentes parce que voilà, c'était plus pour des problèmes de logistique. Et en fait, après la deuxième année d'alternance, du coup, en tant que développeuse, je me suis dit, ben, je sens pas que c'est fait pour moi. J'ai besoin justement d'intégrer un petit peu plus d'expérience utilisateur. Donc voilà. Donc à l'issue de ça, j'arrive en troisième année de mon cycle de formation du coup à Gobelin. Et je me suis dit, bah, je vais tenter le coup, c'est ma dernière année, j'ai envie de me faire plaisir et d'apprendre surtout, d'apprendre dans autre chose que le développement. Par contre, c'est quand même mon domaine de spécialité, donc l'idée, c'est d'arriver à trouver une entreprise qui me permette de pouvoir toucher à quelque chose d'un petit peu plus large. Et donc, c'est là que Prismo s'est montré, un job dating. J'y suis allée vraiment sans attendre quoi que ce soit. À la base, c'était vraiment une demande pour être front-end développeur, donc vraiment travailler non pas sur... dans le développement, il y a deux parties, il y a la partie back et front, et back, on va dire, pour vulgariser, c'est vraiment tout ce qu'il y a derrière, ce qu'on voit pas, ce qui est l'architecture d'un site, du logiciel ou l'application, puis après il y a le front, donc c'est vraiment ce qui vient donner un petit peu la couleur aussi, donc l'intégration justement du design graphique. Et donc c'était surtout pour ça à la base, et je me suis dit, bon, à voir, dans la mission, dans les missions, il y a des choses un petit peu aussi orientées sur l'UX. Je savais que du coup, ils n'avaient pas forcément de UX designer en interne. Enfin, en tout cas, c'était une alternante qui est partie. Et du coup, je me suis dit, peut-être qu'il y a moyen. et du coup, je suis arrivée donc là en me disant, c'était 50%. Enfin, à l'entretien, on a discuté et on s'est mis d'accord sur un 50% design et un 50% développeur. Et du coup, je me suis dit que ça allait être cool, j'allais pouvoir continuer à garder ce que je savais faire et puis faire autre chose. J'ai commencé avec la partie design parce que c'est là qu'étaient leurs besoins à la base. Et puis en fait, en décembre, janvier, j'avais pas touché une ligne de code. Je voyais que leurs besoins, en tout cas me concernant, n'étaient pas dans le développement. Et moi, je commençais à m'épanouir dans le design. Du coup, on a acté avec ma responsable de formation, ma tutrice de formation qui me suivait, et puis mon maître d'apprentissage chez Prismo. On s'est dit, autant valider la direction UX/UI plutôt que développement, puis en accord avec mon projet professionnel, donc j'ai pu un peu bifurquer. Et pareil, du coup, dans mes projets de fin d'année à l'école, j'ai pu me concentrer sur des parties plus sur la conception plutôt que de faire du développement pur. Voilà, en tout cas pour cette formation-là, c'était un petit peu le moment mi-réorientation et précision de mon projet professionnel. Et puis voilà, puis si je viens encore rétrospectivement, avant d'arriver dans cette école où du coup, qui à la base... dans laquelle je devais faire du développement. J'ai fait une formation à DUT à Grenoble, DUT métier du multimédia et de l'Internet, où en fait c'est une formation ultra pluridisciplinaire où j'ai pu travailler très largement sur du développement, de la programmation, du réseau, donc vraiment des parties très techniques, mais aussi de l'infographie, des cours d'art plastique, on avait des cours de communication digitale, du marketing plus global, etc. Donc ça nous a permis un peu d'appréhender tous les métiers un peu du web et tout un peu les postes qui pouvaient exister. Puis après, c'était à nous de choisir notre spécialité. Puis je me suis dit que le développement, ça m'allait bien. Jusqu'à, du coup, Prismo.
Donc déjà, à la sortie du lycée, tu savais que tu voulais travailler, exercer un métier dans le numérique?
Alors non. Alors, pas du tout. Et justement, j'étais un peu le profil bon élève, mais pas trop. Je tournais entre 13 et 15 de moyenne. Voilà, globalement, j'avais un peu des bonnes notes de partout qui me permettaient en tout cas d'aller dans toutes les filières que je voulais post-bac. Et en fait, si d'ailleurs on remonte au-delà de ça, même quand j'étais à l'école primaire et qu'il fallait choisir pour aller au collège, voilà, on nous disait non, mais... Enfin, au collège et... Non, pas à l'école primaire, je remonte. À la fin du collège, et qu'on nous disait, voilà, faut choisir le lycée, bah, on nous disait, bah, t'as les notes, va en général. Du coup, bah, je suis allée dans un lycée général. Ensuite, on m'a dit, bah, t'as les notes, va en filière S. Donc, ça n'existe plus maintenant, mais j'ai l'impression d'être vieille.
La filière scientifique.
Alors que j'ai que 24 ans. Non, mais voilà, donc la filière scientifique, puis pareil, on m'a dit, bah, t'as les notes, donc prends SPMAT, puisque du coup, bah, tu peux, donc pourquoi te priver, autant pas te fermer de porte. Et en fait, j'ai suivi les conseils de mes professeurs, et j'ai pas de regrets, parce que c'était des matières qui m'intéressaient aussi, mais c'est vrai que j'avais d'autres matières, moi, qui m'intéressaient aussi, qui étaient les langues, l'art, et en fait, c'est cette filière, en tout cas, à ce moment où il y avait encore SES, donc économie et littéraire, en plus de scientifiques, ben en fait, c'était soit on allait faire des langues et de la littérature, soit on allait faire de l'économie, de la gestion. D'ailleurs, je ne sais même pas vraiment ce qu'ils faisaient en ES, j'avoue. Soit il y avait STMG.
Très siloté, oui.
Oui, il y avait STMG aussi. Et puis, du coup, la filière S, où c'était très sciences, physique, voilà, physique, chimie, SVT et autres. Et moi, je voulais faire de l'anglais et des sciences. Et ben, c'est pas possible. Donc, j'ai juste suivi une voie parce qu'il fallait en choisir une, avec un peu de regret quand même. Enfin, non, sans regret, mais en me disant que c'était dommage que je puisse pas explorer d'autres matières comme d'autres filières le proposaient. Et du coup, bah, j'arrive à la fin du lycée avec les mêmes questions qui sont « J'ai envie de tout faire, je peux tout faire, qu'est-ce que je fais ?» Donc j'avais postulé autant à des DUT informatiques qu'à une mise à niveau en art appliqué. D'ailleurs, je me souviens, en lycée, on avait des cours d'accompagnement personnalisé en terminale qui étaient censés nous aider à nous orienter justement pour la suite du parcours post-lycée, en tout cas. Et en fait, je me souviens des cours d'AP. Donc moi, dans ma classe de S, SPMAT, où notre prof, du coup, qui était aussi notre prof principal, c'était le professeur de physique-chimie, en fait, 75% en plus, on était dans une classe un peu d'élite, parce que j'étais dans les... Il y avait les options latin, italien, euro, etc. Donc on était un peu tous les têtes du panier. Et 75% de la classe voulait aller en médecine. Donc les cours d'accompagnement personnalisé, c'était prise de notes en PACES. Et d'ailleurs, qui n'existe plus non plus. Et donc première année de médecine. Et moi, en fait, j'étais au fond de la salle, je dis au prof, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie d'aller en médecine, moi je veux aller en mise à niveau en art appliqué, est-ce que je peux faire mon book? Donc je coloriais au fond de la salle, tout le monde me regardait, lui le premier. D'ailleurs, je me souviens d'une remarque qu'il m'avait faite à un point stratégique d'orientation, où on devait revoir avec lui, du coup, nos vœux sur la plateforme pour choisir, en fait... nos études, voilà, bon, c'était APB, mais
APB, Parcoursup, ah oui, maintenant. Exact.
et du coup, moi j'avais choisi une mise à niveau en art appliqué, il m'a regardé, il m'a dit, mais vos parents sont au courant? Oui, ils sont au courant, et ils me soutiennent, il n'y a pas de souci. Et vraiment, dans ses yeux, j'ai lu mais si ma fille, en spécialité maths, elle me dit qu'elle veut faire de l'art appliqué, bah en fait, non, quoi, faut qu'elle aille en médecine, ou faire maths sup, maths spé, j'en sais rien. Je dis, mais en fait, c'est moi, si j'ai envie, je vous demande pas votre avis, encouragez-moi, essayez de m'orienter, en fait, plutôt que de me freiner ou de me dire que c'est pas la voie Oui, mais il n'y a aucune voie qui me permettait jusqu'à maintenant de choisir ou de décider que c'était ça qui m'intéressait. Et d'ailleurs, ce qui m'avait motivée à aller dans cette école, enfin, dans cette mise à niveau, c'était parce que j'avais fait plein de portes ouvertes, plein de salons, et que je me suis dit, bah, pourquoi pas. À la base de la base, je voulais faire de l'animation 3D, et du coup, plus dans l'animation, donc le cinéma d'animation, etc. Et donc ça m'a passé pendant une phase. J'ai voulu faire beaucoup de métiers, mais du coup, c'est cette phase-là qui m'a orientée vers des écoles un peu plus vraiment la graphique de dessin à ce moment-là. Et du coup, des mises à niveau en art appliqué. Et du coup, bah, après le lycée, à ce moment-là, j'étais un peu perdue, très honnêtement. Je savais pas si la formation, enfin, je savais pas dans quelle branche j'allais m'épanouir par rapport à ce que j'avais appris jusque-là. J'avais jamais expérimenté des choses justement plus graphiques, littéraires, linguistiques, etc. Donc c'était toujours des domaines qui m'intéressaient, mais que j'avais jamais pu travailler au lycée. Donc après, je suis tombée sur ce DUT qui mêlait un petit peu tout. Donc je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas, on verra bien ce que ça dit. Ça a l'air assez pluridisciplinaire pour qu'en tout cas, je puisse me réorienter ou que ça puisse me permettre de valider ou d'invalider des directions. Et en fait, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans le digital, en fait. C'est cette formation qui m'y a amenée et l'envie de faire plein de choses.
Parcours extrêmement intéressant. Et donc tout ça pour se retrouver aujourd'hui à 24 ans product manager.
C'est ça.
Chez Prismo, donc une jeune entreprise innovante du bassin arnésien. Et du coup, est-ce que tu veux nous raconter un petit peu ce que signifie ce métier, ce job de product manager ?
Alors, il y a beaucoup de choses dans product manager. En plus, c'est un métier qui est assez récent. Du coup, on y met plein de choses. Globalement, le rôle du product manager, c'est d'accompagner au développement du produit. Et tout en gardant la ligne directrice de la vision, de la boîte, du produit, de ce qu'on veut en faire. Donc moi, dans mon quotidien, ça veut dire suivre et la roadmap de développement, la travailler avec les urgences. Enfin, nous, en interne, on appelle ça des urgences marché, mais globalement, c'est les besoins de l'utilisateur, les besoins de nos clients et de l'équipe marché de manière générale. Donc, et puis, en même temps, travailler donc cette roadmap par rapport à ces urgences-là et par rapport à la faisabilité technique aussi. Donc là, je travaille avec la partie plus l'équipe technique de développeurs pour arriver à transformer au final une envie, une fonctionnalité en tâche et prioriser ces tâches en fonction des besoins aussi. Donc ça, c'est un peu le cœur. Et puis après, c'est d'arriver à prioriser surtout aussi ces tâches en fonction prioriser et qualifier ces tâches et ces fonctionnalités en fonction de là où on veut amener notre produit. Donc nous, par exemple, chez Prismo, on développe des outils pour le développement professionnel et le recrutement. Et du coup, voilà, on sait qu'on a notre cible qui est d'un côté plus grand public où on a besoin d'accompagner, enfin, on a envie, et c'est tout le projet de Prismo, c'est d'accompagner le maximum de personnes dans leur orientation. D'ailleurs, ça fait assez écho au final à mon parcours un petit peu alambiqué, mes problèmes d'orientation. D'ailleurs, pour ça que je me suis retrouvée en Prismo. Mais donc voilà, il y a toute la partie comment on fait pour accompagner et permettre à un individu d'apprendre à se connaître assez pour savoir s'orienter. Et en même temps, en parallèle de ça, c'est comment on fait pour outiller, du coup, ben, les experts en ressources humaines ou les coachs, les formateurs, les recruteurs, les employeurs, etc., d'arriver à mieux apprendre, à savoir qui sont leurs collaborateurs, leurs candidats ou leurs apprenants pour mieux les orienter. Donc globalement, on est sur une vision qui est d'ouvrir la connaissance de soi à ceux qui ont besoin de se connaître et ceux qui ont besoin de connaître des personnes en face d'eux. L'idée, c'est de se dire, OK, maintenant, comment est-ce qu'on le traduit en fonctionnalité, en produit Donc, nous, on a fait des questionnaires, du coup, de comportement, de motivation et un parcours d'aide à l'identification des compétences techniques qui permettent d'accompagner, du coup, les utilisateurs à faire le point sur leur profil professionnel de manière complète. Donc, on a traduit un besoin en une fonctionnalité, enfin, en plusieurs fonctionnalités. Et du coup, le rôle du product manager là-dedans, c'est de faire en sorte que, notamment, ces questionnaires-là, par exemple, serve la vision qui est d'accompagner le maximum de personnes dans la connaissance de soi. Et pour être sûr de pas développer ou dévier en développant un produit qui répondrait à un autre besoin ou à une autre cible, et c'est juste garder le cap, en fait. Enfin, juste.
Et justement, du coup, tu disais que ton rôle, c'est vraiment de travailler main dans la main à la fois avec l'équipe produit et l'équipe technique. Le fait que tu aies par le passé travailler sur la partie web développement, est-ce que du coup tu trouves que c'est un vrai atout et une nécessité de connaître le métier de tes équipes pour justement arriver à faire le lien entre les différents corps de métier ou pas forcément?
Alors c'est un peu compliqué comme je voudrais pas dire n'importe quoi. Est-ce que c'est une nécessité absolue? Je pense pas. Est-ce que c'est ultra utile et si on peut le faire, il faut le faire? Je vais dire oui. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en effet, réfléchir à une fonctionnalité, je la réfléchis par rapport à son usage par les utilisateurs et en même temps par rapport à sa faisabilité. Et quand je dis c'est pas obligatoire dans le sens où il y a l'équipe technique qui est là pour donner son expertise technique et donner justement les informations en faisabilité. Donc d'une certaine manière, si moi j'avais pas cette connaissance, ben j'aurais juste besoin de travailler encore plus étroitement avec l'équipe technique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un atout considérable de comprendre, en fait, d'être product manager pour un outil digital et d'être capable de comprendre ben comment est-ce qu'il se fabrique au final, comment est-ce qu'on le développe et qu'est-ce que ça implique. Et notamment, voilà, d'identifier que même un petit changement qui, des fois, a l'air minime, en fait, d'avoir en tête que ça peut avoir des répercussions sur plein d'autres choses, programmatiquement parlant. Et du coup, moi, de mieux doser aussi la difficulté de réalisation de la fonctionnalité.
Très bien. Et est-ce que ça nécessite aussi d'avoir des capacités de facilitatrice? De pouvoir faciliter les liens entre ces équipes et puis également d'avoir un certain leadership, parce que j'imagine que tu permets aussi d'orienter certaines décisions ou même parfois de les prendre quand c'est nécessaire, qu'il faut aller vite, qu'on est un petit peu dans l'urgence, parce qu'on sait que dans une start-up tout va parfois très vite.
C'est vrai. un rôle de facilitatrice, oui, je pense que c'est important. Ce qui est surtout compliqué, en fait, en tout cas chez Prismo, on a réussi à mettre en place pas mal de communication. Typiquement, on a des daily tous les matins où il y a moi, du coup, dans le rôle un peu de la responsable produit, au final c'est ça, un product manager. Le responsable produit, le scrum master, qui du coup lui fait partie intégrante de l'équipe technique et gère un peu la to-do au quotidien de l'équipe, et un commercial du coup qui est là avec nous, et en fait comme ça on peut avoir une vision vraiment du besoin client, de moi, du besoin, l'expertise produit et en même temps du suivi et du quotidien technique. Donc on arrive à prendre les décisions ensemble. Je pense pas forcément... Alors oui, c'est intéressant, c'est bien d'avoir un rôle vraiment de facilitateur quand on a ce métier-là, parce que justement, il faut pouvoir s'adapter aussi à tout le monde. Moi aujourd'hui, que ce soit mon bureau ou même de manière générale, conceptuelle, je suis centrale dans l'entreprise. Je parle à tout le monde. Il faut que je joue un peu d'écoute pour aussi faire entendre ma voix et mes besoins de mon pôle où je suis un petit peu toute seule, mais oui, la communication est ultra importante. Et après, chez Prismo, nous, on a réussi à mettre en place des stratégies pour que aussi les équipes arrivent à communiquer entre elles sans forcément passer non plus par moi tout le temps, parce que sinon je suis un peu le goulot d'étranglement dans les deux sens.
C'est la risque.
Mais oui, sinon c'est aussi le rôle du product manager de faciliter les échanges.
Très bien. Et du coup, pour rentrer un peu plus dans ta vie quotidienne, est-ce que tu peux nous raconter une journée type?
Ça n'existe pas, une journée type. Ça n'existe pas du tout. Et surtout chez Prismo, et surtout le fait que je tiens plein de casquettes différentes. Aujourd'hui, une journée type, c'est traiter les retours et les retours en tout cas et les demandes que je peux avoir côté de l'équipe marché, à savoir parce que globalement je pilote et je produis aussi du support pour les commerciaux, pour du coup les j'ai les termes anglais et les termes de Prismo, donc c'est compliqué. Mais globalement, on a plusieurs rôles qui travaillent avec plusieurs acteurs, on va dire. On a le CSM, donc le Customer Success Manager, qui lui est vraiment avec les clients, l'accompagner du coup dans l'utilisation du produit au quotidien ou de manière régulière. On a du coup les sales, donc les commerciaux qui sont là plutôt dans les prospections et qui vont aller du coup chercher de nouveaux clients. Une fois que le client est converti, du coup, c'est le Customer Success Manager qui prend le relais. Du coup, il y a et de l'autre côté, il y a vraiment l'équipe technique que je vais regrouper. Parce qu'ils travaillent dans une synergie entre eux. Et en fait, on n'a pas forcément... Enfin, moi, de mon rôle, je n'ai pas forcément besoin de savoir comment est-ce qu'ils s'organisent entre eux tant que j'ai mon relais avec, du coup, le Scrum Man... je vais y arriver. Avec le Scrum Master. Donc globalement, j'ai un peu ces trois interlocuteurs-là en face de moi, donc le CSM, le Sales et le Scrum Master. Et l'idée, c'est de récupérer... je suis en train de me perdre.
On est sur la journée type. Bien qu'il n'y en ait pas.
Oui, bien qu'il n'y en ait pas de journée type. En fait... Je vais travailler donc en support des sales, en support des CSM et en support du coup des développeurs. Plus en support des développeurs quand il y a besoin du coup de mettre en place des fonctionnalités en disant bah, ok bah, je la mets où, je la mets comment, j'ai besoin d'une maquette, j'ai besoin d'un wireframe, donc plutôt d'un squelette de maquette, j'ai besoin juste qu'on se pose autour et que tu me dises je mets mon bouton ici, voilà des choses comme ça. Donc je vais être en support vraiment de l'équipe technique à ce niveau-là et c'est là que je prends du coup ma casquette un peu de suis au quotidien. Ensuite, je vais récupérer les besoins là, du CSM qui me dit bah, « Ok, j'ai un client, il a besoin de tel contenu pour comprendre. Est-ce que tu peux essayer d'organiser du coup pour récupérer ou produire ce contenu ?» Donc des fois, c'est des présentations PowerPoint, des fois, c'est des dossiers, des fois, c'est une interview client à organiser ou enfin voilà... Il y a donc ça. Puis, partie sales, c'est pareil. Bah, c'est OK, moi, j'ai un prospect. Par contre, il a besoin d'un document pour comprendre. Il a besoin, donc ça. Donc, du coup, je vais travailler avec eux là-dessus. Travailler aussi avec eux sur la stratégie marketing. Donc, quel est le discours qu'il faut adopter pour vendre le produit. Étant donné que je connais le produit, je connais la vision, je suis un peu le rôle qu'il va avoir chacun en disant, bah OK, lui, il a besoin de ça. Il faut lui dire... ça parce que c'est comme ça qu'on amène le produit pour qu'ils le comprennent le mieux, etc. Donc il y a vraiment toute cette partie. Puis après, en complément de tout ça, il y a aussi nous en tout cas chez Prismo, on a un lab, on va dire, c'est une entité, une équipe un petit peu à part de l'équipe quotidienne, du coup sur lesquelles on vient un peu travailler, maturer nos produits, donc nos algorithmes, les data visualisations du coup pour enfin, qui ressortent des différents questionnaires qu'on fait, la science derrière les questionnaires, etc. Tout ça est travaillé et maturé dans ce lab. Et une fois que la donnée le lab nous sort la donnée, bah là, je vais devoir prendre cette donnée, puis la travailler, donc faire des graphiques, arriver à dire, OK, bon, bah là, il faudra des profils comportementaux, donc potentiellement travailler avec des experts qui vont nous accompagner. Et donc là, j'ai plus un rôle, une casquette vraiment de... product designer, mais dans le design en termes de conception. Et en fait, ça compose mes journées un peu au quotidien. Donc voilà, en parallèle de tout ça aussi, on travaille avec une équipe de communication, enfin une agence de communication qui gère notre community management, parce que du coup, bah, ça fait quand même beaucoup de choses déjà. Mais je suis en pilotage avec eux, du coup, pour travailler avec eux et en relation directe. Donc je suis à l'interface chez Prismo qui interagit avec eux. Et au final, mon quotidien, c'est ça, c'est de répondre aux besoins des sales, des CSM, de l'agence de communication, du lab, etc. Et de produire ou de piloter les différents projets et donc une journée type, ça n'existe pas.
Et en plus, on ne s'ennuie pas.
Ah non.
tu décris beaucoup, enfin en tout cas, tu parles du métier de Scrum Master. Donc tu l'as évoqué à plusieurs reprises et je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse ce métier-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Oui, alors le Scrum Master, c'est dans les méthodologies agiles, donc qui est des méthodologies de gestion de projet, qui sont vachement dans l'itération. En fait, on va définir ce qu'on appelle un sprint. Et sur ce sprint, on va dire, OK, on a un objectif, c'est de développer une fonctionnalité, une partie de la fonctionnalité, etc. Ça va s'organiser sur un sprint d'une durée définie. Et du coup, après, cette fonctionnalité, comme je disais, elle va être découpée en tâches et du coup priorisée. Ensuite, elle va être distribuée à des différents responsables pour la production. Donc, par exemple, je prends une fonctionnalité assez simple, c'est faire une page web. Bah, faire une page web, OK, il faut rédiger le contenu, il faut maqueter l'interface pour voilà, le côté graphique. Puis après, il faut développer, mettre en place la structure technique. Puis ensuite, il faut intégrer du coup la maquette pour que la structure, elle ait l'air de la maquette. Puis, et du coup, là, il y a plein d'acteurs, en fait, c'est de... qui vont produire et travailler à la production et travailler dans ce sprint. Et le Scrum Master, au final, c'est la personne qui va pas prioriser ou définir ses tâches, mais qui va suivre que le sprint avance correctement, en disant, OK, les tâches, elles sont faites, ensuite, machin, il y a lui qui doit travailler dessus, donc il suit un peu les différents... Il est un peu garant de ce sprint et de la tenue de ce sprint. Voilà.
Ok, très bien, merci, très clair. Et aujourd'hui, chez Prismo, vous êtes une équipe de combien ?
On est 12, donc on est une petite grosse équipe. Non, on est pas mal pour une start-up, mais en même temps, on est dans une phase un petit peu de développement aussi et de croissance, donc on commence à faire grossir nos équipes, et d'ailleurs, ça risque de continuer potentiellement dans les années à venir. Mais non, dans l'idée, c'est surtout que... On a plein de projets et notre vision, elle nous amène aussi à développer des produits qui intéressent plein d'acteurs et de l'emploi et de la formation. Et en fait, ce qui nous mène derrière à développer aussi et travailler sur des marchés publics. Et du coup, bah, en fait, on a besoin aussi des fois de ressources pour travailler sur ces marchés publics. Donc, par exemple, là, on a un projet qui s'est lancé avec le plan d'investissement dans les compétences, donc piloté par Pôle emploi de la région et du coup, par le ministère du Travail. Et en fait, nous, on a proposé, du coup, avec quelques labos de la région aussi, donc des universités autour de nous, on a proposé un programme. Et donc, on a été lauréat, enfin, ce programme a été lauréat, du coup, de ce plan d'investissement dans les compétences. Et du coup, bah, là-dessus, forcément, c'est aller plus loin dans ce que Prismo fait grâce aux outils de Prismo. Donc, c'est un peu notre base, mais il faut aller plus loin. Et dans ce cas-là, on a besoin aussi de recruter à ce moment-là. C'est ce qu'on a fait, du coup, sur l'été. Mais donc, là, on n'a pas de marché public qui va se lancer actuellement. Mais voilà, c'est aussi comme ça que Prismo se développe et peut continuer à se développer, en tout cas dans l'avenir.
Et tu disais en début d'interview... que tu avais décroché ce job chez Prismo, alors d'abord en alternance, mais via un job dating qui avait été organisé, du coup, j'imagine...
Par l'école.
Par l'école, très bien. Et est-ce que tu savais, avant de rencontrer Prismo, que c'était une start-up déjà ? Et est-ce que tu savais ce qu'était une start-up ?
Alors oui, parce que, en fait, mon école, comme je disais, donc, se situe au Papeterie Match Factory... donc un bâtiment en fait qui a été créé il y a quelques années, enfin qui a été monté il y a quelques années. C'est une ancienne vraie papeterie qui a été complètement retapée pour faire en fait un bâtiment qui accueille des formations des entreprises et une pépinière d'entreprises aussi, donc pour que les entreprises elles puissent se créer, puis ensuite des locaux pour des entreprises plus grandes. Donc c'est un bâtiment qui s'est créé vraiment pour nourrir tout ça, et particulièrement dans le domaine du digital. C'est un peu le clin d'œil, la papeterie qui devient ambassadrice du digital. Et du coup, donc ma formation se situe là-bas, enfin elle se situe toujours, mais en tout cas c'est là-bas que j'ai été formée, et c'est là-bas qu'est Prismo aussi. Donc en fait je connaissais déjà parce que c'était mes voisins, ils étaient littéralement la porte en face de l'école, et donc en plus certains collègues qui sont plus chez Prismo aujourd'hui étaient venu intervenir en cours, donc je connaissais déjà ce qu'ils faisaient, qu'ils étaient une start-up, et puis dans le digital, je sais pas ce qu'il en est des autres secteurs d'activité, mais En fait, j'ai l'impression qu'une fois qu'on commence à mettre dans le bain du digital, ça commence beaucoup aussi par de la start-up. À moins que ce soit une entreprise qui se digitalise, ça commence beaucoup par de la start-up, par de l'application, et puis on lance, on est tout petit, et puis on lance une application, on le fait grimper, etc., on le fait grandir. Donc en fait, il y a une culture start-up dans le digital, j'ai l'impression en tout cas, qui est vachement présente. Par contre, c'est vrai que j'ai des amis dans d'autres domaines, je leur parle de start-up, et ils ne comprennent pas vraiment. Mais
Et alors, comment tu leur définis ce qu'est une start-up ?
Ah, c'est compliqué. Je pense pas que c'est la vraie définition, mais pour moi, une start-up, c'est en effet une petite entité qui part un peu de rien et qui part dans un projet, qui se fait financer, qui arrive à trouver des subventions, des aides, etc. Qui est pas forcément rentable, on va dire, dans les premières années, parce qu'il y a plusieurs phases, on va dire, un peu de développement, et notamment qui passe par construire donc on appelle ça un POC, un proof of concept, qui va venir un peu prouver, enfin on identifie qu'il y a une problématique sur le marché, qu'il y a un besoin. De ce besoin, on vient du coup créer ce POC qui vient potentiellement être testé sur le marché, dire okay, ça répond bien aux besoins. Maintenant, c'est trouver des investisseurs et des fonds pour dire ok, ben on vous soutient dans la démarche de créer ce projet et de le développer et de l'industrialiser. Donc ben c'est des premiers fonds qui permettent d'embaucher de premières personnes à vraiment développer le projet pour ensuite le commercialiser, etc. Et moi, c'est vraiment cette vision-là, en tout cas, que j'avais de la start-up et qui s'est confirmée avec Prismo, en tout cas. Et en tout cas, des start-up que j'ai pu rencontrer jusque-là. Après, il y a peut-être d'autres formats, mais voilà.
Très bien. Merci beaucoup, Chloé. Peut-être pour le mot de la fin, est-ce que tu aurais quelque chose à dire pour donner envie à nos auditeurs et auditrices de travailler dans une start-up, de se lancer dans ces jeunes entreprises innovantes?
Bon, je pense que il y a pas forcément d'argument qui soit pour ou contre la start-up. Faut le voir comme une entreprise comme une autre au final, dans lequel, alors oui, c'est vrai, il y a des opportunités d'être pluridisciplinaire, mais ça, je pense que c'est plus propre au fait que ce sont des petites structures et que du coup, forcément, on est moins dans des process. Si on travaille dans des gros groupes et tout est très en silo, là, c'est souvent des managements qui sont assez horizontalisés. Donc, en fait, c'est dans la collaboration, on n'est pas beaucoup. Donc, du coup, on travaille un peu sur tous les fronts. Faut pas avoir peur de ça. Ça peut être stimulant pour certaines personnes, ça l'est pour moi en tout cas. Mais il y a des personnes d'ailleurs, même chez Prismo, qui sortent pas forcément du poste qu'ils ont, des développeurs qui sont juste développeurs et pas Scrum Master. Pour ça, il faut pas en avoir peur. Et en même temps, c'est peut-être une bonne opportunité pour pouvoir prétendre être pluridisciplinaire comme j'ai pu l'être moi. Voilà. Et sinon, c'est un mythe, il n'y a pas toujours de baby-foot dans les startups.
En effet, pour avoir visité les locaux de Prismo...
Il n'y a pas de baby-foot.
Mais pas encore.
Bon, je ne sais pas. Nous, on joue aux cartes. Ah. Non, mais c'est plus dans l'idée que... C'est vrai que cette image du baby-foot est très propre au fait que c'est des petites boîtes à taille humaine dans la collaboration. Et au final, on est aussi des amis plus que des collègues. Enfin... pas que, enfin, je dis pas qu'on sort tous les soirs, etc., mais disons qu'on apprécie autant passer des moments personnels que professionnels ensemble, et c'est vrai que des fois, il y a une ambiance un peu plus conviviale que j'imagine dans une grosse structure où tout est processé, où du coup, il y a un système hiérarchique, par exemple, très développé. Voilà, c'est tout.
Très bien, merci beaucoup, Chloé, pour cette interview.
C'était le podcast Startup Job Story. Merci à toutes et tous pour votre écoute. En attendant le prochain épisode, vous pouvez nous suivre sur Apple Podcasts, Deezer et Spotify. Rendez-vous aussi sur www.startupjobstory.com. Merci et à bientôt pour une nouvelle histoire.